France Musique.
Mr. Louis Armstrong.
Now, good evening, ladies and gentlemen. Listen at this.
Un été avec Armstrong. Épisode 9, Pennies from Heaven.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver en ce samedi pas vraiment estival. Il fait très moche en tout cas à Paris, donc c'est un temps à rester au coin du feu, à écouter la radio avec une verveine pour les plus téméraires. Nous retrouvons donc Satchmo, on le retrouve en janvier 1935, de retour aux États-Unis après un an d'absence, un an et demi d'absence même, passé sur le vieux continent. Ça ne va pas fort aux États-Unis, il n'a plus d'orchestre, plus de manager, les finances ne sont pas bonnes et ses lèvres le font souffrir, bref, la totale. Dès qu'il accoste à New York, il se rend chez son ami, le clarinettiste Meds Mesrow, et lui demande de l'aide pour remettre le pied à l'étrier dans le monde du spectacle. Mais Mesrow est tellement accro à l'opium, impossible d'en sortir quoi que ce soit. En désespoir de cause, Armstrong se tourne alors vers Joe Glazer. Alors souvenez-vous, on en a déjà parlé de Glazer. C'était le fils de la patronne du Sunset Café à Chicago, où jouait Louis en 1926-27. Glazer et Armstrong avaient sympathisé, mais le Joe traîne une réputation sulfureuse. Il serait proche de la pègre et il aurait même le coup de revolver facile. Selon les recherches d'Iraclie de Davrichevi, Armstrong, dans une mauvaise passe, met tout de même sa carrière entre les mains de Glazer. Organisation des tournées, réservation des hôtels, engagement des musiciens, il doit tout payer et se rémunérer avec le reste. C'est le deal entre Armstrong et Glazer. Un deal qui va durer 34 ans. En même temps, Glazer a déjà un petit CV, il s'est occupé des carrières de musiciens comme Sammy Stewart ou encore ce chanteur un peu fou, Cab Calloway. Calloway et son orchestre dans Manhattan Jam. Joe Glazer, le nouveau manager d'Armstrong, arrête donc toute autre activité pour ne s'occuper que de son nouveau poulain, le roi Louis, qui devient, entre guillemets, sa propriété. C'est en tout cas comme ça que lui, il le conçoit, puisque dans le journal Pittsburgh Courier, il fait paraître, en 1935, cette annonce. Quiconque essaiera d'embaucher Louis Armstrong sans passer par lui, donc par Joe Glazer, le fera à ses risques et périls, sachant que Glazer était un peu proche de la pègre, une annonce qui prête un peu à faire peur. Pour faire taire Johnny Collins, souvenez-vous, l'ancien manager donc qui l'avait précédé, Glazer, eh bien, le paye, lui verse $5,000 en solde de tout compte et Johnny Collins s'en va faire ses affaires ailleurs. Il revendiquait encore de prétendus droits sur la carrière d'Armstrong. Quant à Tommy Rockwell, l'ancien directeur artistique des disques OK, eh bien, Glazer le prend comme associé, carrément, il garde ainsi son ennemi encore plus près de lui pour qu'il ne lui marche pas sur les pieds. Après quelques semaines de repos, Louis reprend les tournées à l'été 35 avec un orchestre réuni par Zillner Randolph. Alors les deux se connaissent, ils ont travaillé ensemble de 31 à 33. Puis rapidement, l'orchestre change, Glazer embauche celui de Louis Russell, qu'Armstrong connaît aussi et avec lequel il se sent bien. Russell reste directeur artistique, directeur musical de l'orchestre, disons, mais Louis en devient la vedette. En octobre 35, il retourne en studio. Cela fait 2 ans et demi qu'il n'a pas mis les pieds dans un studio américain. Got brand new suit, got a brand new tie, got a brand new twinkle in my eye. Do you know the reason why? Got a brand new girl. And I want this view. She's the reason why I got a brand new tie and a brand new suit. When I'm with her, gotta look my best. Put on my tan shoes, gray spats, double-breasted vest. Gonna wear my stick pin, the T-clap oil. With the brand new tie, the brand new girl. À ce moment de sa carrière, Armstrong est à la fois trompettiste, chanteur et showman. Il assure le spectacle presque à lui seul, l'orchestre étant présent juste pour le mettre en valeur. Écoutez David Cunyan, le conservateur du musée du jazz de la Nouvelle-Orléans.
Armstrong essayait de vendre des disques, mais je ne crois pas qu'il ait sacrifié son art au business. Fabriquer des succès et tenter de divertir, ça n'enlève rien à la qualité de la musique. Ça peut arriver, mais ce n'est pas son cas. Quand Armstrong a percé, et encore aujourd'hui dans la communauté afro-américaine, c'est un atout d'être à la fois un showman et un artiste. Vous pouvez être un artiste, vous pouvez être un showman artiste, ça ne pose aucun problème.
C'est justement pour ses talents de showman et sa voix célèbre qu'en 1937, Armstrong est propulsé maître de cérémonie d'une émission de radio très populaire, Fleischmann's Yeast Radio Show, une émission hebdomadaire diffusée sur le réseau de la NBC. Jusque-là, elle était animée par le crooner gominé Rudy Vallée qui a insisté pour qu'Armstrong et son orchestre le remplacent quelques mois. C'est la première fois aux États-Unis qu'un Afro-Américain occupe un poste si important dans une émission si écoutée. Et par chance, des extraits de cette émission ont été conservés. Voici par exemple la fin de l'émission du 8 mai 1937.
Yeast present another half hour with music by Louis Armstrong and his orchestra, comedy by Eddie Green and G.G. James, words by Octavius Roy Cohen. And now,
this is Louis Fatsmo Armstrong saying good night, ladies and gentlemen. Yes, sir.
Fleischmann program, announced by Charles Lyon, came to you tonight from Chicago. This is the Blue Network of the National Broadcasting Company. WJZ, New York.
Le petit bonsoir d'Armstrong aux auditeurs le soir du 8 mai 1937. Au même moment, il publie son autobiographie, encore une première pour un noir aux États-Unis. C'est dire sa popularité outre-Atlantique. La préface du livre est signée Rudy Vallée, qui d'ailleurs vient reprendre sa place comme maître de cérémonie de l'émission radiophonique. Le livre n'est pas publié en France, mais le prochain le sera. Parallèlement, le cinéma réclame Satchmo à corps et à cri, 5 films en 2 ans aux côtés de Dick Powell, Ida Lupino, Mae West et par 2 fois Bing Crosby, comme dans cette petite bluette en 36, Pennies from Heaven.
Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me.
Pennies from heaven, over. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. Well, if you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the thing you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me.
Il y a des gens qui ont pensé qu'il aurait dû s'exprimer davantage, se révolter davantage, étant donné son profil, il aurait dû dénoncer l'injustice raciale. Et puis sinon, il y a d'autres gens qui l'ont critiqué parce qu'il pouvait être gênant pour les Noirs. Par exemple, il y a certains rôles un peu péjoratifs qu'il a tenus au cinéma. Le fait qu'il a joué devant des publics blancs, ségrégés. Et au moment où les Noirs souffraient du racisme et luttaient pour l'égalité, lui, il était là, tout sourire, heureux, en train de jouer devant des publics blancs. Et certaines personnes considéré que c'était un stéréotype en train d'être perpétué au détriment des Noirs.
Michael White de l'université Xavier de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, quand Armstrong y retourne, le public noir doit parfois écouter sa musique depuis l'extérieur, sauf si des représentations leur sont réservées, mais elles sont rares. Quant au film des années 30 dont on parlait juste avant, Armstrong y tient soit son propre rôle, soit des rôles de mecs sympathiques mais un peu benêts, un peu balourds, comme dans Going Places en 1938. Là, il incarne par exemple un garçon d'écurie qui converse avec un cheval grâce à sa trompette. Et d'ailleurs, il arrive à le dresser ainsi. Il aurait fallu que Armstrong soit là pour faire entendre raison à ce cheval qui s'est un peu illustré au JO, là, vous savez, qui ne voulait pas sauter les obstacles. Bref, il a même composé une chanson pour le canasson, extrait du film, avec Hennissement en prime.
Ain't nobody can ride that horse. Hey, you jeepers! Don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain sunshine. I don't care how the weatherman points. When the weatherman points to gloomy, it's got to be sunny to me. When your eyes look into mine. Oh, jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, all get up, I'd to get so lit up. Gosh, all get up, I'd to get that size. Oh golly gee, when you turn the heaters on, woe is me, got to put my cheetahs on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers have hypnotized, yeah. Where'd you get those eyes, gate? Where'd you get those eyes, that's where'd you get those eyes? Papa, da dee da dee da dee da dee da.
Armstrong dans le film Going Places en 1938 avec un cheval, donc on ne sait pas si le cheval a fait carrière. En 38, Armstrong divorce enfin d'avec Lille. Il s'était marié en 1924, mais ils ne vivaient plus ensemble depuis des années. Il lui doit beaucoup à son épouse, à son ex-épouse désormais, Lille, car elle l'a vraiment pris en main au début. Elle a été son premier manager, et s'il est devenu une vedette internationale, elle y est pour quelque chose. Écoutez Michael White.
Et moi je me dis que tous les jazzmen devraient épouser une pianiste, parce que elle a reconnu son talent et elle a aidé à évoluer, à grandir dans ses connaissances des accords, des mélodies et à évoluer dans la composition, la capacité à lire et à écrire la musique. Ça a beaucoup augmenté chez lui grâce à son épouse. Elle avait une formation classique et elle embrassait plus de genres de musique que les jazzmen. Elle connaissait bien l'harmonie, la composition, le contrepoint. Donc elle a appris à Armstrong toutes ces choses-là. Elle lui a fait écouter différents styles de musique. Elle lui a fait jouer d'autres styles de musique, des musiques pour des spectacles par exemple, des musiques d'église, la musique classique et ainsi de suite. Et tout ça, ça lui a permis d'amplifier ses compétences mélodiques et autres. Et il a exploité ça dans l'improvisation, bien sûr.
Dans les années 30, Lille monte son propre orchestre swing, hein, parallèlement à son ex-époux. Elle y tient le piano et elle y chante. Elle embauche le trompettiste Jonah Jones, qu'elle trouve proche du style de son ex-époux. Elle l'appelle même Roi Louis, deuxième du nom, King Louis II. Elle conserve elle-même le nom d'Armstrong, parce que ça fait quand même son petit effet sur les affiches, ce nom. Elle le garde jusqu'à sa mort, qui surviendra d'ailleurs la même année que son ancien mari.
Thank you. muggins, never a cop in sight. You can see most any old thing in Harlem on Saturday night. Now the chicks are chicken, the pickpockets picking. When they pick you right. You can see most any old thing in Harlem on Saturday night. Hot spots are never cold, piccolos are thumping. No matter where you go, every joint is jumping. Now all the sugar hillers are a bunch of killer dillers. I'm trying to set you right. You can see most any old thing in Harlem on Saturday night.
Une fois divorcé d'avec Lille, Louis peut épouser Alpha Smith, qu'il fréquente depuis les années 20. C'est vrai qu'il n'a jamais été très fidèle. Depuis qu'il est revenu aux États-Unis en 1935, Armstrong a changé de maison de disque. À présent, il enregistre chez Decca, une marque britannique en train de se faire une bonne place parmi les majors américaines. Celui qui s'occupe plus ou moins de la direction artistique chez Decca, c'est un nommé Jack Capp. Et son grand plaisir à Jack Capp, c'est de mélanger les vedettes qu'il a sous contrat pour optimiser les ventes de disques. Dans les années 30, par exemple, ce qui marche bien, c'est la musique hawaïenne un peu jazzifiée, représentée par des guitaristes comme Sol Opie, King Benin Hawaii ou encore Sam Cooke et ses Polynésiens. Et voilà Armstrong embarqué dans deux séances de disques avec des musiciens hawaïens, et ça sent bon l'exotisme de pacotille quand même.
France Musique. Un été avec Armstrong, Florian Royer.
On a little bamboo bridge by the waters of Kalua, beneath Hawaiian skies, I fell in love with you. On a little bamboo bridge by the waters of Kalua, we found a paradise, oh paradise for two. While we were gazing in the water, the silver ripples kissed the shore, and your reflection in the water seemed to say you'd be mine forevermore. On a little bamboo bridge by the waters of Kalua, you made my dreams come true, sweetheart, when I found you. Thank you. While we were gazing in the water, the silvery ripples kissed the shore, and your reflection in the water seemed to say you'll be mine forevermore. Oh, on the bamboo bridge by the waters of Kaluuya, you made my dreams come true. Sweetheart, when I found you,
mais il faut avouer quand même que la voix et la trompette d'Armstrong se marient bien avec le ukulélé et la steel guitare des musiciens hawaïens. La steel guitare, cette guitare en métal, le corps en métal joué à plat sur les genoux. Il a fait donc deux séances de disques avec les musiciens hawaïens. En revanche, il enregistre davantage avec ce quatuor très populaire dont les membres ont pour particularité d'imiter les instruments avec leur voix. Ça, c'est encore une idée de Jack Capp de chez Decca. Armstrong enregistre donc beaucoup avec les Mills Brothers puisqu'il s'agit d'eux. Entre 1937 et 1940, Armstrong et les frères Mills enregistrent une dizaine de disques parce que Decca a trouvé que l'association fonctionnait bien.
Carry me back to old Virginia.
Ba-ba-da-ba-ba-do-do-do-da-do-say. Carry me back to old Virginia. There's where the cotton and the corn and taters grow. There's where the birds wobble sweet in the springtime. There's where the old donkey's heart longed to go. There's where I labored so hard for old master, day after day in the fields of yellow corn. No place on earth do I love more sincerely than old Virginia, the state where I was born.
Carry me back to old Virginia. There's where the cotton and the corn and taters grow. There's where the birds warble sweet in the springtime. There's where this old darky's hawsen long to go. There's where I labored so hard for dear old massa, day after day in the fields of yellow corn. No place on earth do I love more sincerely than old Virginia, the state where I was born.
Won't you carry me back to old Virginia? There's where the cotton and the corn and taters grow more. There's where the birds wobble sweet in the springtime. There's where the old donkey's heart and long to go. There's where I labored so hard for old master, day after day in the fields of yellow corn. No place on earth do I love more sincerely than old Virginia,
the state.
Oh, Baba, do 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 do.
Where I
was born. Baba, do ba da do da do. Ba do do ba da do 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 ba do.
Depuis qu'il a repris les enregistrements aux États-Unis, Armstrong chante sur la quasi-totalité des disques et plus le temps va passer et plus le chant prendra le pas sur la trompette. Cela préserve ses lèvres déjà bien abîmées et ses poumons aussi. Mais son style de chant est assez proche de son style de jeu, c'est ce que relève l'auteur Dan Morgenstern qui a bien connu Armstrong.
C'est un chanteur merveilleux. C'est le premier grand chanteur de jazz, Louis Armstrong. Il chante comme il joue. C'est le même phrasé. Et bien que son anglais n'ait pas été très pur, oxfordien si vous voulez, il interprète les paroles merveilleusement bien, il comprend ce qu'il chante, il l'exprime merveilleusement bien. Hoagy Carmichael, l'un des grands auteurs, adorait Louis Armstrong en raison de son interprétation.
Armstrong a interprété beaucoup d'œuvres justement signées Hoagy Carmichael. Il enregistre en 1939 ce Poor Old Joe, pauvre vieux Joe, composé au début des années 30. Mais pour lui d'ailleurs, qui ce titre banal, pauvre vieux Joe, revêt une signification particulière. Son ancien maître et mentor, Joe Oliver, le King Oliver, avec qui il avait enregistré ses premiers disques en 1923, est mort en avril 1938. Alors certes, le titre a été composé avant sa mort, mais Armstrong l'enregistre quelques mois après. King Oliver est mort dans une cambrousse où il avait échoué au terme d'une ultime tournée ratée. Et là-bas, il s'était fait marchand de légumes ambulants pour subvenir à ses besoins. Armstrong aida à faire revenir la dépouille et paya l'inhumation de l'idole de son enfance dans un cimetière de New York.
Now poor old Joe has been buried to his fate. Poor old Joe is knocking Peter's gate. I can see the smile upon his face when he takes his place with the angels, angels. Poor old Joe, he was only 42. Didn't know the things he shouldn't do. Now he's through, that's why the bells are ringing. Everybody's singing, poor old Joe. Life too fast. Now here is my story. Poor old Joe liked his liquor straight and strong. Poor old Joe liked women lean and long. Yes, sir. Tried to go at much too fast a pace. Came in second place to the devil. What killed Joe? Not just the women that he knew. What killed that cat? It was wine and women too. Now he's through, that's why the bells are ringing. Everybody's singing in Poncho.
Satchmo s'essaie à tous les styles. La nouvelle scène gospel et le succès d'artistes comme Mahalia Jackson, Rosetta Sharp et le Golden Gate Quartet l'incitent, ou plutôt incitent c'est son entourage, peut-être Joe Glazer, son impresario, ou alors Jack Capp, l'éminence grise des disques Decca. En tout cas, l'une ou l'autre de ces personnes décide Armstrong d'enregistrer des gospels auxquels sa voix donnera un aspect encore jamais entendu. Alors pour moi, c'est entièrement subjectif. Sa première incursion dans le gospel remonte à 1932 dans un titre diffusé la semaine dernière qui s'appelait « Lord, you made the night too long ». Mais à la fin des années 30, il en grave beaucoup plus dans de nouvelles versions parfois, des best-sellers comme Shadrach, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, et celui-ci, moins connu, dans sa version armstrongienne, est gravé en 1938.
Everybody talking about him. He ain't a going there. Him. 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 God's him.
I got rope. You got a robe, all God's children got a robe.
Got a robe.
When I get to heaven, gonna put on the robe, gonna shout all over God's heaven, heaven, heaven. Everybody's talking about heaven, ain't going there. Heaven, heaven, heaven. Gonna shout all over God's heaven.
Oh, everybody talking about heaven, ain't going there. Heaven, heaven, heaven.
I got wings, you got wings. All God's children got wings.
Got a wing.
When they get to heaven, gonna put on wings, gonna fly all over God's heaven, heaven, heaven. Everybody's talking about heaven, ain't going there. Heaven, heaven, heaven. Gonna fly all over God's heaven.
Oh, everybody talking about heaven, ain't going there. Heaven, heaven, heaven. God's heaven. I got a song, you got a song. All God's children got a song. When you get to heaven, gonna sing a new song. Gonna sing all over God's heaven. Heaven, heaven. Everybody talking about heaven, ain't a going there. Heaven, heaven. Gonna sing all over God's heaven.
God's heaven. I got a song, you got a song, all God's children got a song.
Got a song.
When I get to heaven, gonna sing a new song, gonna sing all over God's heaven, heaven, heaven. Everybody talking about heaven, ain't going there. Heaven, heaven, heaven. Gonna sing all over God's heaven.
Heaven,
heaven.
Il enregistre même deux sermons aux accents assez comiques où il ne fait que parler. Et le soir de Noël 1938, Armstrong est sollicité pour animer les festivités de Noël au Carnegie Hall. Decca, sa marque de disque donc, demande aussi à Satchmo de réenregistrer ses succès d'il y a 10 ans, celui de la fin des années 20, époque des Hot Five ou encore de Dickerson. Selon Daniel Nevers, qui a écrit les livrets de l'excellente intégrale Armstrong chez Frémo, les anciens disques d'Armstrong, donc ceux des Hot Five, des Hot Seven, sont toujours disponibles à la vente. Mieux, grâce au rachat des disques du groupe ARC par un autre groupe encore plus gros, le groupe CBS, le responsable du catalogue, un nommé George Avakian, quelqu'un d'assez important à la carrière d'Armstrong, peut éditer certains enregistrements réalisés vers 1927-28 et qui, à l'époque, avaient été laissés au stade d'inédit. Car Tommy Rockwell, donc le directeur de l'enregistrement à l'époque, hein, il y a 10 ans, n'avait pas jugé utile de les commercialiser. Mais bon, on l'a déjà dit, Tommy Rockwell ne connaissait pas grand-chose à la musique. Nouvelles et anciennes versions de grands succès d'Armstrong se côtoient donc chez les disquaires. Satchmo réenregistre entre autres West End Blues, Savoy Blues et Strutting with Some Barbecue, des chefs-d'œuvre de l'époque du second Hot Five, le bon temps quoi.
Thank you.
un succès de 1927 réenregistré 10 ans après. Alors le son a changé, la mode est au big band là. Il y a une quinzaine de musiciens chez Louis Russell, contre 5 par définition chez les Hot Five. Ça donne une nouvelle saveur à ces titres. Les grandes formations, les big bands, sont les rois. D'ailleurs, chez Decca, il y a aussi le big band du volcanique batteur Chick Webb qui enregistre beaucoup, avec dans ses rangs une jeune chanteuse qui n'a pas encore 20 ans. Ella Fitzgerald qu'elle s'appelle. Au début, elle ne chante que les refrains. Et puis, son rôle s'étoffe. Chick Webb mourra prématurément en 1939, la formation deviendra The Ella Fitzgerald Orchestra. Mais pour sa première collaboration avec Armstrong, il faudra attendre 1946, donc pour nous, la semaine prochaine. Pour l'instant, elle a un petit nom, alors qu'Armstrong, lui, est déjà célèbre des deux côtés de l'océan. En 1937, il est même caricaturé dans des courts-métrages animés produits par la Metro-Goldwyn-Mayer, avec d'autres grands noms du jazz de l'époque. On reconnaît Fats Waller, Cab Calloway et justement les fameux Mills Brothers.
Who that? Who that? Who that say who that when I say who that? Come on here. You talk about you got rhythm. You got this. You got that. He's got rhythm.
You tell me.
Sing out now. 1, 2.
Les animateurs des studios MGM les présentent, ces jazzmen, sous les traits de grenouilles. On les reconnaît tous, hein, Waller, Armstrong, Calloway. C'est en 1939 d'ailleurs que se déroule l'un des passages les plus énigmatiques de la carrière d'Armstrong, son engagement dans le spectacle Swingin's Dream, monté à Broadway. Une distribution de rêves, Dorothy Dandridge, Maxine Sullivan, les formations de Benny Goodman et de Lionel Hampton, des chorégraphies signées Agnès Demille. L'œuvre est tirée du songe d'une nuit d'été de Shakespeare transposée dans la Louisiane de 1890 et Armstrong y tient le rôle de Bottom. Mais le spectacle est éreinté par la presse et il est stoppé au bout de seulement 13 représentations. Il n'en reste aucun enregistrement, seulement quelques photos et de minuscules fragments du script. Une distribution de jazz presque 100% afro-américaine pour un des spectacles les plus énigmatiques de Broadway. Ce qu'il en reste, en fait, c'est cette chanson, Down That Dream, créée dans la pièce et ici enregistrée par Benny Goodman, mais seulement 8 ans plus tard.
Down that dream, I dream each night. You say you love me and you hold me tight. But when I awake, you're out of sight. Oh, down that dream. Down your lips and down your eyes, they lift me. Then I tumble out of paradise. Oh, down that dream, down that one-track mind of mine. You can't understand that you don't care. Just to change the mood I'm in, I'd welcome a nice old nightmare. Down that dream and bless it too. Without that dream I never would have you. But it haunts me and it won't come true. Oh, down that.
Cette fin des années 30, Armstrong assure aussi quelques engagements au Cotton Club, la plus célèbre boîte de New York, des engagements qui sont retransmis à la radio à l'époque. Et en plus, côté technique, de plus en plus d'amateurs parviennent à capter et à conserver ces transmissions sur des disques recouverts de lac. Alors la qualité n'est pas très bonne, mais cela permet d'entendre les musiciens dans des titres qu'ils n'ont jamais enregistrés en studio, comme ici « Keep the Rhythm Going ». Cette transmission date de mars 1940, ce sera bientôt la fin d'une époque, celle des grands orchestres et des grands dancing aussi.
Thank you.
Keep the Rhythm Going en direct du Cotton Club pour terminer cette émission. Nous sommes en 1940 et le monde sera bientôt bouleversé. Il l'est déjà un peu, mais les États-Unis ne vont entrer en guerre qu'à la fin de 1941. D'autres événements vont venir bouleverser la vie de Louis Armstrong. Ce sera pour demain des événements comme le Petri Lioban qui à ce jour reste encore l'une des plus longues grèves dans le milieu du spectacle. Armstrong va passer près de 2 ans sans faire le moindre disque commercial. Et puis il y aura bien sûr son arrivée au Metropolitan Opera en 1944. Mais ça c'est pour demain. Cette émission a été réalisée par Max James avec Maxime De Peretti à la console et Hortense Le Blouche pour la page internet. Il est l'heure, il est 19h, je vous laisse en compagnie de Marjolaine Portier-Kaltenbach.
À réécouter sur francemusique.fr.